Hi, I'm Adrian Sala, and you're listening to Wikisleep. As many of you know by now, I'm getting very close to launching an app for Wikisleep, which several of you have already signed up for and accessed through the beta version. I wanted to share with those of you that have accessed the beta version that I am busy making revisions to it and adding new functions, features, and fun things. Also, you can still gain early access by visiting wikisleep.com and signing up there. I'd say it's about 80% of where it needs to be, but that it is getting closer every day. One of the most important notes on the beta version is that the sample price is inaccurate. I believe it says $10.49 in Canada and $8 in the US. The actual price for the initial version will be around $6, I think. Anyhow, this is all part of the process of development, and I thank you for bearing with me. As you might imagine, I've been pretty busy, so today I'm releasing two French episodes that can be found on the app. Even if you don't speak French, Samia's voice and tone are so very soothing that it's like taking a warm bath for your brain, and can be super effective with helping you sleep. I hope you enjoy, and I'll be back next week with something new.
Vous écoutez Wikisleep. Je suis votre narratrice, Samia McPhee. Pour commencer, pratiquons un peu de respiration abdominale pour vous aider à vous détendre. Cette technique respiratoire simple implique de prendre une grande inspiration, de faire une pause, d'expirer, de faire de nouveau une pause, et ainsi de suite. Commençons. Videz tout d'abord complètement l'air de vos poumons. Inspirez ensuite jusqu'à ce que votre buste et votre abdomen se gonflent. Faites une pause de quelques secondes. Et expirez l'air. Inspirez de nouveau, faites une pause, expirez. Vous pouvez répéter ces étapes autant de fois que vous le voulez. La respiration abdominale est une excellente méthode que vous pouvez utiliser quand vous le souhaitez, si vous voulez vous concentrer, retournez au calme ou si vous vous sentez anxieux. L'histoire d'aujourd'hui, la grande attaque ferroviaire. La grande attaque ferroviaire est l'histoire sensationnelle du hold-up d'un train postal royal qui s'est déroulé en Angleterre en 1963. Le butin dérobé s'éleva à 2,6 millions de livres sterling, l'équivalent de 55 millions de livres ou 73 millions de dollars aujourd'hui. À 18h50, le mercredi 7 août 1963, un wagon postal quitta la gare centrale de Glasgow à destination de la gare de Euston, située au centre de Londres. Le train comptait 12 wagons, à bord desquels 72 employés s'affairaient à trier le courrier pendant le voyage. Le second wagon, placé juste derrière la cabine de conduite, était habituellement réservé aux marchandises de grande valeur. Ce jour-là, le wagon contenait plusieurs sacs avec des sommes d'argent importantes. En temps normal, la valeur de la marchandise s'élevait à 300 000 livres. Mais le week-end précédent ayant été un long week-end de congé, la valeur totale des sommes transportées ce jour-là était estimée à 3 millions de livres sterling. Peu après 3 heures du matin, le conducteur du train postal, Jack Mills, un homme de 58 ans, stoppa le train au feu rouge situé au croisement des voies de la liaison principale, un croisement appelé Sears Crossing, situé près du village de Ledburn. Jack Mills ignorait que le signal avait été trafiqué. Un feu rouge étant une chose inattendue à cet endroit et à cette heure tardive, le second équipier de la locomotive, David Whitby, un jeune homme âgé de 26 ans, descendit de la cabine de conduite pour contacter un agent des signaux au moyen d'un téléphone situé sur le côté de la voie. Whitby découvrit alors que les fils du téléphone avaient été coupés. Au moment où il retourna vers le train, il fut attaqué par un inconnu et un groupe d'individus s'empara rapidement de la cabine de conduite en grimpant des deux côtés de la locomotive. Mills se débattit avec son attaquant, puis reçut un coup derrière la tête, le laissant inconscient. Les braqueurs avait prévu de faire avancer le wagon contenant les sacs d'argent vers Brightcope Ridge, situé approximativement à environ 1 km de leur localisation, pour pouvoir y décharger le magot. Pour accomplir cette tâche importante, ils avaient engagé un conducteur de train expérimenté à la retraite depuis des années. Mais malgré son expertise, celui-ci s'avéra incapable de conduire le nouveau modèle de locomotive dont il ignorait totalement la mécanique. Un modèle avancé pour l'époque qui ne lui était pas familier. N'ayant pas d'autre choix, les voleurs décidèrent rapidement que Mills, le conducteur du train postal, conduirait lui-même la locomotive jusqu'à un point spécifique. Une fois arrivé à destination, la bande de voleurs prit d'assaut le wagon situé à l'arrière de la cabine de conduite, dans lequel se trouvaient les articles de grande valeur, mais aussi une partie des employés. Puisqu'il n'y avait pas d'officier de police ou de garde de sécurité à bord, ceux-ci offrirent peu de résistance aux attaquants qui leur ordonnèrent de s'allonger dans un coin du wagon, face au sol. Mills et Whitby furent ensuite amenés dans le wagon, les mains menottées et balancés au sol contre leurs collègues. Pendant une vingtaine de minutes, les 15 voleurs s'affairèrent ensuite à retirer 120 des 128 sacs du wagon en formant une chaîne humaine et s'enfuir une fois leur véhicule chargé. Afin de brouiller les pistes, ils utilisèrent deux Land Rover, chacune portant la même plaque d'immatriculation. L'opération prit au total moins de 30 minutes. Les braqueurs conduisirent leur butin le long des routes de campagne, tout en écoutant les rapports de police diffusés sur les ondes de radio à haute fréquence. Le trajet pour rejoindre leur cachette, la ferme Leathersdale, dura environ une heure. Les premiers rapports sur le crime furent diffusés à la radio aux alentours de 4h30 du matin, juste avant leur arrivée à la ferme. Une fois sur les lieux, les voleurs comptèrent leur butin et le partagèrent en 16 parts égales, tout en mettant de côté quelques montants additionnels pour leurs complices. Bien que le montant total partagé diffère selon les sources, il est estimé que chaque voleur récolta 150 000 livres sterling, soit l'équivalent de 3 millions de livres aujourd'hui. En écoutant les rapports de radio, la bande apprit que la police savait déjà qu'ils étaient cachés dans un rayon de 50 km de la scène du crime et qu'ils ne s'étaient pas enfuis dans différentes directions avec leur magot. Cette conclusion fut basée sur une information livrée par un témoin présent sur les lieux du crime, qui rapporta qu'un membre de la bande avait ordonné aux employés des postes de ne pas bouger pendant une demi-heure. Les voleurs apprirent également que la police passait les environs au peigne fin avec l'aide des résidents locaux. Ils découvriraient la ferme bien plus tôt qu'ils ne l'avaient prévu. La bande prit alors la décision de quitter la ferme plus tôt, soit le vendredi au lieu du dimanche, c'est-à-dire le lendemain du braquage. Mais certains employés du train, ayant vu les véhicules utilisés pour le braquage, les conduire pour quitter la ferme était hors de question. Les voleurs employèrent une autre méthode. Un homme nommé Brian Field se rendit à la ferme le jeudi pour ramasser sa part du butin et repartit à Londres avec l'un des voleurs, Roy James, pour que celui-ci se procure un nouveau véhicule. D'autres complices, Bruce Reynolds et John Daly, amenèrent également des voitures à la ferme et repartirent ensuite avec d'autres voleurs de la bande, Jimmy White, Ronnie Biggs et le conducteur de train qu'ils avaient engagé. Brian Field, ainsi que son épouse Karen et Mark, son associé, retournèrent à la ferme avec des camions et conduisirent le reste de la bande de voleurs à Londres, au domicile de Field. Bien que les voleurs de la bande eurent passé un temps considérable à effacer leurs empreintes sur les lieux, Field promit de mettre feu à la ferme une fois qu'ils seraient tous partis. Mais lorsqu'Edwards, Reynolds, Daly, James et Field se réunirent le mardi suivant, ce dernier avoua qu'il n'avait pas réussi à incinérer la ferme. La police avait déjà trouvé leur repère. À 5 heures du matin, le jour du braquage, Malcolm Futrell, chef surintendant des services de police, arriva sur les lieux du crime où il supervisa l'enquête. Selon les informations récoltées auprès des témoins, une quinzaine d'hommes vêtus en bleu de travail était impliqué dans le vol. Mais il restait encore bien des détails à découvrir. À l'heure du dîner, Futrell comprit que des ressources supplémentaires étaient nécessaires pour continuer l'investigation. Scotland Yard reprit l'enquête en main. La police commença alors une recherche dans un large rayon autour de la scène du crime et des équipes de surveillance furent envoyées dans plusieurs ports maritimes. Le ministre des Postes fit une déclaration offrant une récompense de 10 000 livres à la première personne qui fournirait des informations pouvant mener à l'arrestation des voleurs. Suite à une information donnée par un berger qui utilisait régulièrement un champ situé près de la ferme Leathersdale, un sergent et un gendarme se rendirent sur les lieux 5 jours après l'attaque du train. Bien que la ferme fût déjà désertée par les voleurs, ils trouvèrent sur place les véhicules qu'ils avaient utilisés pour transporter leur butin et qu'ils avaient repeint en jaune à la hâte. Ils trouvèrent également de la nourriture, des matelas, des sacs de couchage, des sacs des postes, des piles de courrier, des élastiques pour billets de banque et un jeu de Monopoly. Les enquêteurs trouvèrent également sur les lieux des empreintes digitales que les voleurs avaient oubliées ou n'avaient pas réussi à effacer. Certaines sur une bouteille de ketchup et d'autres sur le jeu de Monopoly qui, on le saura plus tard, avait été utilisé après le vol pour jouer des parties avec de vrais billets de banque. Mais malgré ces importantes découvertes, l'enquête piétina. Scotland Yard continua son travail d'investigation en nommant un nouveau détective en chef, Tommy Butler. Butler concentra ses efforts sur la partie de l'affaire impliquant la planification du vol à Londres et mit rapidement en place une escouade de 6 hommes dédiée à la médiatique affaire de l'attaque ferroviaire. Une avancée importante dans l'enquête se fit quand le détective en chef rencontra un avocat dans le fumoir d'un club privé du West End de Londres. L'avocat lui confia qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait lui transmettre des informations sur la bande de voleurs. L'informateur en question avait été incarcéré dans une prison provinciale bien avant l'attaque du train et espérait ainsi obtenir une probation ou une meilleure offre en échangeant ses informations. Il ne connaissait pas tous les noms des voleurs impliqués dans l'affaire, mais une autre personne, une femme, livra également des informations complémentaires. Les identités de ces 2 informateurs ne furent jamais révélées. Tommy Butler fut un choix judicieux pour reprendre la direction de cette escouade policière. Il devint, sans l'ombre d'un doute, l'un des chefs d'escouade les plus célèbres de Scotland Yard grâce à cette histoire. Butler avait hérité de quelques surnoms tels que Monsieur Brigade Volante et Tommy d'un jour, pour la rapidité avec laquelle il appréhendait les criminels. On le considérait comme un loup blanc pour sa perspicacité. Il était célibataire, vivait toujours avec sa mère et était complètement dédié à sa tâche. On raconte que lorsque les membres de son escouade lui demandèrent d'alléger leurs conditions de travail, Butler éclata de rage et les menaça de les renvoyer à de vulgaires tâches de bureau. Il était d'une nature tellement secrète que l'un de ses collègues, Jack Slipper, déclara à la blague que la main gauche de Butler n'était probablement pas au courant de ce que faisait sa main droite. Même les membres de son escouade étaient envoyés à des tâches sans savoir exactement en quoi elles aideraient l'avancée de l'enquête. Inévitablement, les voleurs furent capturés, à commencer par Roger Cordray. Celui-ci était resté dans l'ombre, caché au domicile d'un ami, William Ball, qui avait accepté de l'aider en échange du paiement de ses dettes. Ball vivait dans un appartement de location meublé, situé au-dessus de la boutique d'un fleuriste, dans le quartier de Moordown à Bournemouth. La police de Bournemouth avait eu connaissance de cette information grâce à Ethel Clark, la veuve d'un ancien agent de police. Ball et Cordray avaient payé 3 mois de loyer d'avance, et ce, entièrement en liasses de billets de 10 shillings. Ball, qui n'avait pas été impliqué dans l'attaque ferroviaire, fut cependant condamné à une lourde peine de 24 années de prison et mourut pendant sa détention en 1970. La police admit plus tard que Ball avait été condamné injustement dans cette affaire. Les arrestations des autres voleurs de la bande suivirent. Le vendredi 16 août, 2 marcheurs qui faisaient une balade matinale dans les bois de Dorking découvrirent une mallette, un sac fourre-tout et un sac de voyage en peau de chameau rempli d'argent. Ils appelèrent la police qui découvrit sur les lieux une autre mallette pleine d'argent. La totalité de la somme trouvée s'éleva à 100 900 livres. Les policiers trouvèrent également un autre sac avec un reçu à l'intérieur provenant d'un restaurant situé en Allemagne, le Café Pension. Les noms de Monsieur et Madame Field figuraient sur le reçu. La police savait que Brian Field était un employé de la firme James & Witter qui avait été impliqué dans l'achat de la ferme Leathersdale. Quelques semaines plus tard, la police se rendit au domicile de Field pour le questionner. Tout en gardant son calme, celui-ci inventa une histoire prétendant que Lenny Field, son père, avait acheté la ferme Leathersdale et que son patron, John Witter, avait joué le rôle d'intermédiaire dans la transaction. Il admit également avoir visité la ferme une seule fois avec Lenny Field, tout en précisant qu'il pensait qu'il s'agissait d'un investissement pour son frère Alexander, que Brian avait échoué à défendre en cour dans une affaire judiciaire précédente. Le 15 septembre de la même année, Brian Field fut arrêté. Son patron, John Witter, fut également arrêté 2 jours plus tard. Quant à Lenny Field, la police avait déjà procédé à son arrestation le 14 septembre. Plusieurs autres voleurs furent ensuite capturés et le procès débuta le 20 janvier 1964. Les accusés, incarcérés dans la prison d'Aylesbury, étaient amenés en cour chaque jour dans un camion privé, à l'abri des badauds curieux amassés autour de la cour de justice. Le juge Edmund Davis présida le procès qui dura 51 jours, 240 témoins furent interrogés et 613 pièces à conviction furent présentées à la cour. À l'issue du procès, le 15 avril 1964, le juge prit la parole et décrivit l'attaque ferroviaire du train Royal Postal comme un acte de violence sordide, motivé par l'appât du gain, alors que personne n'avait été tué dans cette attaque. Il condamna 7 des voleurs à 30 ans de prison. La sévérité de ces sentences causa un grand étonnement dans la population britannique. L'un des principaux acteurs du braquage, Reynolds, avait réussi à s'échapper à Mexico avec sa femme Angela et son jeune fils Nick, où ils vécurent grassement pendant un temps grâce à sa part du butin. Une fois l'argent épuisé, il emménagea avec sa famille au Canada, puis en France, sous une fausse identité, avant de retourner au Royaume-Uni, où de nouvelles opportunités d'affaires lui furent offertes par d'anciens contacts criminels. Il fut arrêté à Torquay en 1968 et condamné à 25 ans de prison. Il fut relâché 10 ans plus tard, mais fut réincarcéré au milieu des années 80 pour trafic d'amphétamines. Il mourut à l'âge de 81 ans, le 28 février 2013, des suites d'une maladie. Les autorités considérèrent que Douglas Gordon Goody avait été le cerveau de l'opération. Goody, qui travaillait occasionnellement en tant que coiffeur à l'époque, vivait encore dans l'appartement de sa mère. Il était âgé de 34 ans au moment du hold-up. Il reçut une sentence de 30 années d'emprisonnement. Après sa sortie de prison en 1975, il s'établit dans la ville de Morácar en Espagne, où il géra le Tiki, un bar de plage. Il mourut d'un emphysème à l'âge de 85 ans en janvier 2016. Le plus dangereux des voleurs de la grande attaque ferroviaire, Charlie Wilson, était surnommé l'homme silencieux. Wilson avait commencé sa carrière de malfrat très tôt dans sa vie, et bien qu'occupant un travail régulier à l'épicerie de ses beaux-parents, il volait des biens qu'il revendait, investissant l'argent récolté dans des jeux de hasard. Il avait déjà effectué plusieurs séjours en prison pendant de courtes périodes pour diverses offenses, mais rien d'aussi important que cette condamnation pour laquelle il reçut une peine de 30 ans d'emprisonnement. Le 12 août 1964, Wilson s'échappa de la prison de Winston Green à Birmingham en seulement 3 minutes. 3 hommes avaient réussi à s'infiltrer dans la prison pour aider Wilson à s'évader, du jamais vu à l'époque. Ses compagnons ne furent jamais retrouvés et 2 jours après son évasion, Wilson était à Paris pour subir une intervention de chirurgie esthétique. En novembre 1965, il se rendit dans la ville de Mexico pour rencontrer 2 vieux amis de la bande du braquage, Bruce Reynolds et Buster Edwards. Wilson s'établit ensuite dans les environs de Montréal, au Canada, avec sa femme et ses enfants, dans un quartier de classe moyenne dont les propriétés étaient isolées, entourées d'arbres. Il vécut sous le nom de Roland Holloway, devint membre d'un club de golf privé et participa aux activités sociales de sa communauté. Mais ce fut seulement quand il invita son beau-frère, qui résidait au Royaume-Uni, à le rejoindre au Canada pour Noël, que Scotland Yard fut capable de retrouver sa trace et de le capturer. Wilson fut arrêté le 25 janvier 1968 et remis en prison, dont il fut relâché en 1978. En 1990, il fut la cible d'un assassinat alors qu'il était en compagnie de Gordon Goody en Espagne. Un autre voleur, Ronald Buster Edwards, était le fils d'un barman. Après sa scolarité, qui correspondait à la période de l'après-guerre, il travailla dans une fabrique de saucisses où il débuta sa carrière criminelle en volant de la viande qu'il vendait au marché noir. Pendant son service militaire national à la Royal Air Force, il fut détenu pour vol de cigarettes. Quand il retourna dans le quartier sud de Londres, il dirigea une boîte de nuit et devint un criminel professionnel. Il épousa June Rose en 1952, avec laquelle il eut une fille, Nikki. Après l'attaque du terrain, Edwards s'enfuit à Mexico avec sa famille et retourna volontairement en Angleterre en 1966, où il fut condamné à 15 ans de prison. Les dernières années avant sa mort, il tenait un kiosque à fleurs à l'extérieur de la gare de Waterloo à Londres. Il mourut en 1994, à l'âge de 63 ans, apparemment d'un suicide. « bien que le mystère demeure autour de quelques membres de la bande qui ne furent jamais capturés, on sait que la police avait pris connaissance des identités de tous les voleurs très rapidement après le braquage. À l'exception de quelques complices qui jouèrent des rôles mineurs, la liste était complète. Quant à l'homme mystérieux qui avait fourni toutes les informations sur l'attaque du train, qu'on avait surnommé l'Irlandais, son identité n'avait pas été révélée. C'est seulement en 2014 que Douglas Goody, alors âgé de 85 ans, révéla à la presse que l'Irlandais était Patrick McKenna. Celui-ci était âgé de 43 ans à l'époque du braquage et était un employé des postes à Salford, dans le Lancashire. McKenna rencontra Goody quatre fois en 1963. Goody dit avoir découvert l'identité de McKenna en remarquant que son nom était gravé à l'intérieur de son boîtier à lunettes. On ne sait rien de la récompense financière que McKenna a supposément reçue en échange de ces informations. Ses enfants furent choqués lorsqu'ils apprirent l'implication de leur père dans cette affaire. On suppose que McKenna a donné sa part du butin à l'école catholique au fil des années, ou que l'argent lui a été volé. L'audace et l'ampleur avec lesquelles ce braquage fut exécuté en a fait une affaire sensationnelle dans les médias de l'époque, restant célèbre jusqu'à aujourd'hui. Le montant de l'argent volé à l'époque est estimé à 55 millions de livres aujourd'hui, une somme dont seule une mineure partie a été retrouvée. L'argent a probablement été rapidement blanchi grâce à des bookmakers et partagé entre divers membres des familles des voleurs, de leurs amis et de leurs associés. Mais une grande partie du butin est toujours cachée quelque part.